Théologie naturelle, Père Philippe, 3 novembre 1983 à Saint-Joseph.
Nous avions commencé la dernière fois à voir comment saint Thomas précise l'ordre de cette contemplation à l'égard de Dieu. Les différents attributs que saint Thomas reconnaît. Alors, comme le propre du sage, c'est d'ordonner, hein, il serait très intéressant de bien saisir l'ordre différent, puisque c'est là où la théologie comme sagesse commence, hein, et c'est là aussi où la métaphysique comme sagesse commence. Vous êtes ébloui, hein, par la splendeur du soleil. Ça ne vous tape pas trop sur la tête. Ça se chauffe un peu. Le point de vue de la sagesse. La sagesse. Puis la perfection. On met entre parenthèses. On va se demander pourquoi la catégorie, l'infini. Puis l'immutabilité. Alors, entre parenthèses, l'immensité. Et l'immutabilité. Enfin, l'unité, donc entre parenthèses, l'éternité et l'unité. 1, 2, 3, 4. Je ne crois pas que c'est pour arriver au chiffre 5 que saint Thomas fait ça. Il y a des raisons sûrement. Ces mises entre parenthèses sont très curieuses. Vous voyez bien, pour ceux qui connaissent bien le début de la somme théologique, ils comprennent tout de suite, hein. Ça, c'est ce que saint Thomas annonce. Alors, il ne dit pas la bonté, il ne dit pas l'immensité, il ne dit pas l'éternité. Mais si je regarde ce que saint Thomas fait, je vois qu'il ajoute simplicité, perfection, bonté, et il y a même deux questions sur la bonté, comme on le verra, l'infini, l'immensité, la présence d'immensité, l'immutabilité, l'éternité, et puis l'unité. Donc, il y a trois attributs qui ne sont pas annoncés et qui, de fait, sont traités. Donc, il faut toujours se poser la question, pourquoi ? Parce que c'est quand même une petite raison. Bon, ça, c'est l'ordre de théologie scientifique. Comprenons bien que l'ordre de la théologie biblique n'est pas du tout le même. C'est très amusant de regarder ceux qui ont voulu mettre en parallélisme les deux. Parce que, de fait, jamais n'est affirmé dans l'Écriture que Dieu est simple. Donc, on peut dire, et c'est ça qui m'intéresse ici, que nous sommes ici vraiment en face d'une conclusion de la théologie scientifique. Je dirais que ce serait la seule conclusion de la théologie scientifique. La théologie scientifique existe uniquement par cette conclusion. Ça suffit. Parce que c'est pas révélé explicitement. Tandis que la perfection, la bonté, l'infini aussi, la présence d'immensité, l'immutabilité, l'éternité, l'idée, ça c'est affirmé. La seule, et c'est le premier. Vous voyez, l'indépendance, et c'est ça qui est intéressant à voir, l'indépendance du théologien de théologie scientifique par rapport au texte même de la révélation. Ça peut scandaliser, je suis tout à fait d'accord, sentez le scandale. Moi, ça me scandalise pas, je trouve ça merveilleux. Parce que ça prouve que la foi respecte l'intelligence. Ce que l'intelligence peut dire, la foi laisse l'intelligence le dire. Parce que l'intelligence le dit d'une manière plus parfaite que la foi. La foi, c'est dans l'obscurité. Tandis que quand l'intelligence le dit, elle le dit dans la clarté. Alors comprenez bien, ce que l'intelligence humaine peut dire, hein, parce que je ne dirais pas ça par rapport au traité de la Très Sainte Trinité. Par rapport au traité de la Très Sainte Trinité, l'intelligence ne peut rien dire. Donc c'est uniquement un ordre qui vient de la révélation. Tandis qu'ici, quand il s'agit du mystère de Dieu, puisque l'intelligence peut découvrir l'exister de Dieu, si l'intelligence peut découvrir l'exister de Dieu, l'intelligence peut tout de suite dire quelque chose de Dieu. Et quelle est la première attribut que l'intelligence peut dire de Dieu? Si je suis comme lui, ici, c'est la foi. C'est vraiment bien. Tandis qu'ici, je dirais, c'est uniquement l'intelligence. L'intelligence découvre l'exister de Dieu, et réfléchissant sur l'exister de Dieu, que va dire l'intelligence? Elle va dire que Dieu existe d'une manière absolument simple. Donc ici, c'est la même conclusion, ce ne sera pas dit tout à fait de la même façon, en théologie naturelle, c'est un très bon exercice que vous avez à faire, en théologie naturelle et en théologie scientifique de doctrine sacrée. Vous voyez, c'est quand même très curieux de voir que la première affirmation sur l'existence de Dieu, sur Dieu lui-même, la première manière d'exister de Dieu est la même pour le pur philosophe et pour le croyant. Je trouve ça très bien. Par rapport à l'existence de Dieu. Le croyant et le philosophe diront la même chose, le philosophe qui atteint l'existence de Dieu. Donc pratiquement plus beaucoup aujourd'hui. Hein. Cherchez bien, ça ne se fait plus. Mais ça devrait se faire. C'est pas parce que ça ne se fait plus qu'on doit canoniser ça. L'intelligence humaine est faite naturellement pour Dieu. Ça, il faut le découvrir. Hein. Une fois qu'on a découvert que l'intelligence est naturellement faite pour Dieu, l'intelligence peut découvrir l'existence de Dieu et immédiatement réfléchissant sur ce qu'est cet être premier qu'on appelle Dieu, il dit Dieu est absolument simple. L'être premier, parce qu'il est premier. La simplicité, c'est l'apanage du premier. Ce qui est premier est simple. Ça, c'est magnifique à comprendre, du reste. Ce qui est second est toujours relatif. Et par le fait même, il n'est pas simple. Il louche. Le premier, il est simple. Un principe, il est simple parce qu'il est premier. Dieu est simple dans son être parce qu'il est premier. C'est ça qu'on veut essayer de comprendre. Hein. Alors ça, c'est beau. C'est beau, parce que c'est quand même quelque chose de magnifique de comprendre que ce qui est premier, l'apanage du premier, c'est d'être simple. Ça, c'est la noblesse du premier. Il est simple. Tous les gens compliqués, ça, ils ne sont pas premiers, ils sont complexes, alors ils sont compliqués. Tandis que le premier, il est simple. Et bien, ça, c'est la même conclusion, théologie naturelle, théologie scientifique. Et là, voyez bien que, si je regarde maintenant l'écriture, théologie biblique, quelle est la première affirmation sur Dieu? C'est pas du tout la simplicité, c'est dit nulle part. Pourquoi c'est dit nulle part? Parce que l'intelligence humaine peut le dire. Alors Dieu fait confiance à l'homme. Alors il est là, c'est pas dit. J'ai regardé à travers toute la Bible, cherchez, vous verrez. C'est du reste facile, il y a eu un petit travail qui a été fait là, Cupins qui a fait ça. Il a fait le petit travail au point de vue biblique, quels sont les attributs de Dieu. Alors il a pris l'ordre de saint Thomas. Alors vous regardez, simplicité, cherchez un texte, aucun texte. Dit Dieu est simple. On dit soyez simples comme des colombes. C'est nous qui devons être simples comme des colombes. Hein. Parce que la colombe, c'est le premier animal, c'est pour ça qu'il est simple. C'est simple comme des colons. Alors, au point de vue théologique biblique, quel premier attribut? Ce qui qualifie le Créateur. Tout puissant.
Je crois que c'est le premier attribut qu'on a.
Ensuite, tout puissant, donc il est Seigneur.
On montrera ensuite. Je crois, si vous regardez attentivement les attributs, Vous voyez que c'est la toute-puissance, qualifie le créateur. Ensuite, vous pourriez découvrir progressivement les différents attributs du créateur, le point de vue de la sagesse, le point de vue, et ainsi de suite. C'est pas du tout le même ordre. Ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, en théologie mystique. En théologie mystique, quel est le premier attribut de Dieu ? C'est facile à comprendre, c'est l'amour. Et c'est sous le point de vue de l'amour que je découvre tout le mystère de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant, et au fond, on devrait toujours, on devrait tout le temps avoir ces différents aspects pour voir l'ordre de la théologie scientifique, le propre du sage, c'est dans l'amour. L'ordre de la théologie scientifique, l'ordre de la théologie biblique, l'ordre de la théologie mystique. C'est pas le même ordre. C'est le même mystère qu'on contemple, mais on le contemple sous des aspects différents. Ici, vous contemplez avant tout le point de vue de la lumière. Dieu contemplé du point de vue de la lumière, c'est-à-dire du point de vue de l'intelligibilité, c'est la simplicité qui apparaît en point de vue. Dieu contemplé en tant que créateur, c'est la toute-puissance. Dieu contemplé en tant que dans la théologie mystique, c'est-à-dire dans l'intériorité, c'est le point de vue de l'amour. Amour fécond. C'est la fécondité dans l'amour. Voilà ce qui est le premier. Alors ça, ça nous aide, si vous voulez, à ne pas rester, à rester uniquement dans une seule perspective. Vous savez bien, l'être intelligent, c'est celui qui est capable de regarder la même réalité sous des aspects différents. Celui qui est incapable de regarder la même réalité sous des aspects différents, il est étroit. C'est ça l'étroitesse. Hein? Il est comme l'âme qui ne regarde que. Tandis que celui qui est intelligent, il sait très bien qu'il y a diverses manières de regarder la même réalité. Et plus cette réalité nous dépasse, plus c'est important de voir les aspects différents. Alors ici, vous avez l'aspect de l'intelligence philosophique. L'aspect de l'intelligence philosophique. Dans la lumière de la foi, la théologie scientifique. Ou dans la lumière de la foi, la théologie scientifique. Puis la théologie biblique, puis la théologie mystique. Vous voyez comment on peut regarder le mystère de Dieu de ces quatre manières différentes. Et c'est vrai. Je peux regarder le mystère de Dieu de ces quatre manières différentes. Alors vous allez me dire, et en théologie de l'Église. En théologie de l'Église, c'est le Christ que vous regardez. En premier lieu. C'est par le Christ est tête. Et par le Christ, vous regardez la très sainte Trinité. Vous regardez le Père. Dans l'Église, vous regardez en premier lieu l'Esprit Saint. Alors on pourrait regarder, c'est le gouvernement. C'est pas Dieu en lui-même, c'est le gouvernement de Dieu. La théologie de l'Église me fait comprendre le gouvernement de Dieu. Et le gouvernement de Dieu, il fait tout avec justice et miséricorde. Puisque la justice et la miséricorde se sont embrassées. Alors c'est la justice et la miséricorde. Mais en théologie de l'Église, c'est justice et miséricorde. Ces attributs-là existent bien en théologie mystique, en théologie biblique et en théologie scientifique, mais ce n'est pas ça qui est premier. Tandis qu'en théologie de l'Église, ce qui est premier, c'est bien justice et miséricorde. Parce que je regarde le point de vue du gouvernement de Dieu. Bon. Ceci, c'est pour réfléchir un peu là-dessus. C'est important. Je ne le ferai pas tout le temps parce que ce serait trop long, mais c'est important d'essayer de le comprendre. Nous allons maintenant entrer dans ce que saint Thomas nous dit à propos de la simplicité. À l'égard de la simplicité, 8 questions se posent. Alors, il faut bien saisir toujours dans un Thomas la structure de ce qu'il annonce, hein, puisque le propre du sage, c'est d'ordonner. Alors, vous allez voir que tout de suite, cette question apparaît comme le primat de la négation. Dieu est-il corporel ? C'est-à-dire offrant une composition de parties quantitatives. La première chose que nous voyons dans le monde physique, comprenez bien,
les réalités qui sont proches de nous, c'est d'être justement des réalités corporelles.
C'est la première chose.
Le corps. Le corps est un corps. Il y a des parties.
Ça, c'est sûr, c'est la première chose qu'on voit, le monde physique. Vous voyez, là, l'expérience du monde physique, hein, c'est l'expérience du monde physique. Y a-t-il en lui composition de forme et de matière? Ensuite, ça c'est la première composition, le corps. Il est complexe. C'est un tout avec des parties. Secondement, c'est le voisin de la matière et de la forme. Alors ça c'est déjà une réflexion, une conclusion scientifique. C'est pas la constatation. Vous n'avez jamais touché la matière. La matière opposée à la forme, jamais. C'est une distinction qu'on fait au niveau philosophique. Troisièmement, y a-t-il composition de nature ou de nature et de sujet? Nature et suppôt. Vous voyez le mot suppôt. Quatrième, y a-t-il composition de essence? Y a-t-il composition de genre et différences spécifiques? J'expliquais, ne vous inquiétez pas. Sixièmement, y a-t-il composition de sujet et d'accident? Septièmement, est-il composé de quelque autre manière ou absolument simple? La conclusion, il est tout à fait simple. Il est tout à fait simple. Et entre-t-il lui-même en composition avec un autre? Dieu peut-il être parti d'un tout? Vous voyez, ça c'est très curieux. Les deux dernières articles, c'est montrer l'isolement de Dieu, si j'ose dire. Dieu, en raison de sa simplicité, ne peut entrer en composition avec rien. Il ne peut pas être relatif à un autre. Dieu ne peut pas être relatif. L'isolement de Dieu, c'est vrai, dans son être, Dieu est souverainement simple et ne peut être relatif à rien d'autre. C'est les deux derniers articles. Bon. Je les laisse, ces deux derniers sont un peu des synthèses, hein. C'est des conclusions. On pourrait dire 7 et 8, ce sont des conclusions. Ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est l'aspect négatif. On met en parallèle les réalités que j'expérimente et la réalité première, Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a comme opposition entre les deux? C'est d'abord l'aspect négatif, c'est-à-dire j'essaie de saisir toutes les compositions possibles que je peux expérimenter ou que je peux saisir dans le monde physique, dans le monde de l'homme. Toutes les compositions qui sont en moi. En réalité, c'est ça, toutes les compositions qui sont en moi. Quelles sont ces compositions? Premièrement, dans l'ordre quantitatif. C'est la première chose que je saisis. Notre monde est un monde quantique. Est-ce que la quantité pénètre en Dieu? Non. Donc, je vais nier cette première complexité. Dieu n'est pas un corps. Deuxième composition, ça c'est pas celle que j'expérimente, c'est celle de la philosophie de la nature. La philosophie de la nature me fait comprendre que toutes les réalités qui sont nues impliquent matière et forme. Est-ce que cette distinction de la matière et de la forme peut être encore transposée en Dieu? Est-ce que je peux dire qu'en Dieu il y a matière et forme? troisième type de composition, c'est déjà quelque chose d'un peu plus, qui va un peu plus loin, la nature et le suppôt. La nature et le suppôt, c'est une distinction qui peut se faire au niveau, on pourrait presque dire, au niveau éthique. Au niveau éthique, j'ai une nature et je suis un suppôt. Le suppôt, c'est l'individu. C'est l'individu concret. Le suppôt, c'est celui qui supponite. C'est celui qui est responsable de ses différentes activités. C'est le concret. Bon, il y a une différence entre la nature. En moi, je peux faire la distinction entre nature et suppôt. Je suis un être individuel. Chacun d'entre nous, nous sommes un être individuel, puis nous avons une nature humaine. Est-ce que je peux faire cette distinction en Dieu ? Non. La distinction de la philosophie première, c'est essence et exister. L'exister, l'essai et l'essence. Est-ce que je peux faire cette distinction en Dieu ? Non. Mais toutes les parties de la philosophie sont passées. Philosophie de la nature, éthique, philosophie première. Puis logique. En logique, je distingue genre et différence spécifique. En logique, je distingue sujet et accident. Eh bien, ces distinctions-là n'entrent pas en Dieu. Autrement dit, je suis en présence, c'est ça qui est très intéressant à voir, si je réfléchis un peu sur toutes ces complexités. Je fais la synthèse de toutes les complexités. Vous allez saisir ça progressivement, parce que c'est intéressant à voir. C'est toujours des petites synthèses que fait saint Thomas comme ça. Ça, c'est pas commun, parce que ça demande des tas de choses sous-jacentes. Saint Thomas fait la synthèse de toutes les compositions possibles que je peux voir en moi. Alors réfléchissez, examen de conscience, sur vos sur votre complexité. Première complexité qui est en vous, première complexité de votre moi, c'est la complexité quantitative. La complexité, c'est évident. J'ai un bras, j'ai une jambe, j'ai mal au pied. Mais donc il y a de complexité. Votre moi, quantitativement, est complexe. Il n'est pas un. Donc il n'est pas simple. C'est évident que par le corps, vous êtes très complexe. La complexité. La complexité de l'homme, c'est la plus grande des complexités. L'homme est le lieu de toutes les complexités. Physique, quantitative. C'est le tout le plus complexe. Ensuite, vous avez en vous possibilité de discerner quelque chose de radicalement indéterminé. L'indétermination radicale qui provient de la matière est une détermination. Nous sommes déterminés, tous. Nous sommes déterminés quant à notre nature. Et nous sommes radicalement indéterminés. Ça pourrait être une possibilité de corruption. Si tout était déterminé en vous, il n'y aurait pas de corruption. Vous, il y a une possibilité de corruptibilité. En vous aussi, une possibilité de corruptibilité. Les tremblements apocalyptiques peuvent exister. Si on se coupe trop fort, ça va casser. Alors, il faut faire attention. La matière et la forme. C'est vrai que c'est une fêlure possible, très fondamentale, entre matière et forme. Donc, il y a un moi déterminé et un moi déterminé. Allons plus loin. Il y a notre individualité et notre nature. C'est encore une autre composition, mon individualité, ma nature. Et puis, radicalement, il y a l'essence et l'existence. C'est une composition métaphysique, celle-là. Je ne peux pas la sentir, hein. Cherchez pas à la palper. Parce que mettez d'un côté votre essence, vous avez vocal en essence, et de l'autre côté l'existence. L'exister, hein. Vous ne pouvez pas faire ça. L'essence et l'existence, c'est une distinction qu'on peut faire au niveau métaphysique, en toute créature, il y a une distinction réelle entre l'essence et l'existence. Entre l'essence et l'existence. En Dieu, pas de distinction entre l'essence et l'existence. Au point de vue logique, c'est la différence entre genre et différence spécifique. Genre, je suis dans le genre animal. L'œcuménisme fondamental dans lequel se trouve l'espèce humaine, on le voit dans l'Arche de Noé. Dans l'Arche de Noé, on met une espèce particulière de tous les animaux avec les parents de Noé. Ça se met dans le même sac. Ils sont tous animal, genre. Différents spécifiques, raisonnables. De temps en temps, ça apparaît. Raisonnable, c'est la différence avec l'animal. Il n'apparaît jamais raisonnable. Distinction entre genre et différents spécifiques. C'est une distinction qui est en moi, une distinction logique, mais c'est une distinction qui est en moi. Certaines de mes opérations relèvent de l'animal. C'est bien évident. Quand je suis obligé de manger, c'est l'animal. Quand je suis obligé de dormir, c'est l'animal. Quand je réfléchis, différence spécifique. Quand j'aime, différence spécifique. Autrement, c'est l'animal. Et ça prend beaucoup de place. Hein. Le genre, ça prend beaucoup de place. Toujours beaucoup plus. Beaucoup plus. La différence spécifique, c'est beaucoup plus ténue. Sujet et accident, je sais bien. J'apparais selon mes accidents. Et puis, je suis radicalement quelqu'un qui a son unité. Donc, j'ai en moi toutes ces complexités. Vous voyez, c'est intéressant parce que je crois que saint Thomas les a toutes nommées. Vous en avez donc, vous avez six fêlures. Six fêlures en vous. Avec quelle complexité, il y a une possibilité de casser. Tandis que le saint est un sept-quarts. Ne pas le casser, ça. Impossible. Tandis que tout ce qui implique de la quantité, ça implique une possibilité d'être divisé. Je peux diviser la quantité. Un être qui implique une composition de matière et de la forme, ça peut se fêler. La nature et le suppos, ça peut se fêler. L'essence et l'essence, ça peut se fêler. Tout ça, c'est fait là. C'est ce que Kierkegaard appelle les fêlures métaphysiques qui sont en nous. J'aime bien ce terme-là, parce que ça exprime bien la chose. Les fêlures métaphysiques qui sont en nous. Vous avez donc six fêlures en vous, six fêlures possibles. Alors, pour montrer ce qu'il y a d'unique en Dieu, aucune fêlure. Aucune fêlure. Il est absolument simple. Alors, est-ce que vous avez l'expérience de quelque chose de simple? Là, c'est une grave question. Est-ce que j'ai l'expérience de quelque chose de simple? Eh bien non. Vous avez une nostalgie de simplicité. Mais vous n'avez aucune expérience de la simplicité. Toutes vos expériences sont complexes. Toutes. Donc vous ne savez pas ce que c'est que d'être simple. Nous ne savons pas ce que c'est que d'être simple. Nous y tendons. Vous voyez, l'artiste tend vers la simplicité. Le génie tend vers la simplicité. On sait très bien la différence, vous voyez, d'un petit savant et d'un grand savant. Quoi. Le petit savant, il est dans la complexité. Le grand savant, il s'élève suffisamment haut, alors à ce moment-là, il peut donner un regard simple. Ça, c'est le regard contemplatif, qui est simple. Alors, on saisit la rente. Mais, vous voyez, ceci, on y tend. Mais n'avons pas l'expérience de la simplicité. Mon intelligence est complexe. Mon cœur est complexe. Ma sensibilité est complexe. Mon affectivité, on n'en parle pas. N'est-ce pas ? Les passions, c'est terriblement complexe. L'imagination, c'est invraisemblable. Hein. Cherchez pas la simplicité dans votre imaginaire. Hein. Parce que ce sont des nœuds terribles, de plus en plus complexes. Donc, c'est pas cherché. Vous n'avez pas d'expérience de la simplicité. Alors, pourquoi éprouver le besoin de dire « Dieu est absolument simple » ? C'est l'apanage de Dieu. Le seul être qui existe, qui est absolument simple, c'est Dieu. Dieu est absolument simple. C'est pour ça que c'est la première contemplation que j'ai de Dieu. Il est absolument simple. Et moi, j'y tends. Mais je n'ai pas l'expérience. Mais quand vous dites, j'ai l'expérience, par exemple, de la pureté de l'eau. Analysez l'eau, elle n'est pas pure. Elle n'est pas pure. C'est pour ça que l'eau se corrompt. Si l'eau était pure, elle ne se corromprait pas. Elle n'est pas pure. Il y a un tas de choses qui dedans. Donc vous ne voyez pas. C'est parce que vous ne voyez pas assez. Mais dès que vous analysez, vous voyez que c'est très complexe. Et plus votre analyse est poussée, plus vous voyez la complexité. Quand vous dites à un psychologue ou à un psychanalyste qu'un enfant est simple, il rigole comme un fou. Mais enfin, pas simple du tout, pas simple du tout. Il apparaît simple, mais il n'est pas simple. Il y a en lui des virtualités étonnantes hein, qui vont se développer progressivement. C'est pour ça que Jésus dit « Soyez simples comme des colombes ». C'est un langage symbolique. La colombe n'est pas simple. Pas du tout. Même quand elle recoule, elle n'est pas simple. Elle est complexe. Rien n'est simple, sauf Dieu. Alors vous voyez, c'est l'aspect négatif. Per modum causalitatis, per modum negationis. L'éminentiel, ça limite. C'est la négation qui domine. La négation domine dans les six premiers articles, 7 et 8, l'éminence. Je vois en effet que Dieu n'est pas composé. Parce qu'il n'est pas composé, je dis qu'il est simple, et je dis qu'il est tout à fait simple. Et il est tellement simple qu'il ne peut entrer en composition avec rien. Vous voyez, alors ça va très loin. Parce que si vous ne pouvez pas entrer en composition avec quelqu'un, vous êtes inutilisable. On utilise les parties. Dieu ne peut pas être partie. Donc Dieu est inutilisable. Dans un monde où on ne regarde que l'utilité, plus de place pour Dieu. C'est très important. Il n'y a plus de place pour Dieu. C'est impossible. Dieu est simple. Donc il est inutilisable. Vous ne pouvez pas vous servir de Dieu. Vous vous servez d'une partie relative à un tout. Mais comme on parle d'intégrer quelqu'un dans un tout, une explication invraisemblable. Ah, il n'est pas très intégré. Oui, parce qu'il est trop simple. Alors, Dieu ne peut pas être intégré. Absolument pas. Il ne peut pas intégrer Dieu. Parce que Dieu est absolument simple. Alors, 7 et 8, vous voyez, c'est très beau. Ça, c'est le fruit de toutes ces négations pour essayer de comprendre cette simplicité qui dépasse tout. C'est une très belle question, la question. C'est une très belle question, la question de la simplicité. C'est une chose très très grande. Et c'est les nostalgies de tous les saints. Simplicité. Vous voyez, dans saint François, cette nostalgie de la simplicité, ça c'est remarquable. Ça on peut dire, c'est la grande nostalgie de saint François. La simplicité du cœur, la simplicité de l'intelligence. Comme il sait que l'intelligence est toujours complexe, il en a peur, il ne faut pas trop, c'est dangereux. Il est arrivé le plus, la nudité de saint François, c'est cette espèce de nostalgie de la simplicité. Il faut saisir ça, et du côté artistique, du côté symbolique, saisir ce que ça peut représenter. Alors ici, nous voyons le théologien, c'est sa première question. Je dirais, ignorer que cette question sur la simplicité, telle que saint Thomas la donne, la théologie scientifique existe. Uniquement cette question. Celui qui veut acquérir l'habitus de théologie scientifique, il faut qu'il regarde cette première question. C'est la question typiquement de théologie scientifique. Per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiae. Le per modum causalitatis est donné par la question précédente, question 2. Est-ce que l'existé de Dieu peut être démontré? Saint Thomas a montré que l'existé de Dieu peut être démontré. Per modum causalitatis. Par mode de causalité, je touche Dieu. Le per modum negationis, c'est le plus ample. Pas une seule question de la somme n'est aussi ample du côté de la négation. 6 articles. C'est extraordinaire, ça. Pourquoi? Parce que la complexité, c'est justement ce qu'il y a de plus comme naturel dans notre monde de créatures. Alors, je comprends très bien. Là, il faut aller jusqu'au bout de supprimer toutes les complexités. Donc, le per modum negationis, il est très ample. Le per modum eminentiae, il est atteint par les 2 derniers articles. Et c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre, cette question sur la simplicité. Chef-d'œuvre de la théologie scientifique. Chef-d'œuvre de contemplation. Alors, nous allons regarder maintenant, si vous voulez, très rapidement, l'analyse de chacun de ces articles, pour que vous compreniez bien. En même temps, vous allez vous familiariser par là au langage de saint Thomas. C'est un langage particulier. Alors, premier article, on se pose la question, est-ce que Dieu... Alors, ne prenez jamais, hein, si vous avez la somme devant vous, n'oubliez jamais que les questions qui sont mises après les articles ne sont pas de saint Thomas. ce qui est de saint Thomas, c'est ce qui est dit dans le prologue. Donc ici, est-ce que Dieu est-il corporel, c'est-à-dire la composition, ayant une composition de parties quantitatives. Remarquez qu'ici, on a répété exactement la même chose. Alors, première objection, c'est l'objection classique, un être n'est-il pas corporel quand on peut lui attribuer des dimensions, une figure, une attitude, un lieu d'où l'on s'approche et d'où l'on s'éloigne. Toute chose que l'Écriture paraît bien affirmer de Dieu. Le langage de l'Écriture est un langage anthropomorphique. C'est-à-dire, comme disait un vieux grec, si un éléphant faisait de la théologie, il dirait que Dieu est un super éléphant. N'est-ce pas ? C'est le vieux grec qui dit ça. Je trouve ça très joli. C'est le vieux grec pour montrer combien, pour montrer que ceux qui parlent de Dieu, au bout d'un certain temps, ils oublient qu'ils attribuent à Dieu, qu'ils projettent sur Dieu. Vous voyez, qu'ils projettent sur Dieu ce qu'ils ont. Ce que je disais ce matin à propos de la connaissance de l'autre. On projette si facilement. C'est si difficile de regarder objectivement ce qu'est Dieu. Parce que tout ce que vous saisissez de vous, vous le projetez. Alors, si un éléphant faisait de la théologie, il se poserait la question, Dieu est-il un éléphant ? Et Dieu est un super éléphant. Je trouve ça très très joli. C'est plein de malice. C'est plein d'humour. Hein ? Parce que c'est vrai, nous pensons Dieu comme nous nous pensons. Puisqu'on n'est rien, rien n'est aussi beau que l'homme. Donc, Dieu doit être un homme parfait. C'est bien évident. Alors, on voit très bien dans le langage par lequel Dieu nous parle, Dieu se sert de métaphores et de symboles. Et donc Dieu parle de distance. Dès le point de départ, regardez, hein, tout de suite, vous savez bien, dès que le péché arrive, il y a une absence de Dieu. Et Dieu ne vient plus que le soir se promener, la promenade du soir de Dieu, hein, avant de se coucher. C'est merveilleux, ça. Dieu vient se promener le soir. Et Adam entend les pas de Dieu. Donc il a un corps, vous voyez bien, il a un corps, parce que c'est dit tout de suite. Alors, ah, pas du tout, pas du tout, on va répondre. Là, c'est très très joli cette première objection. Cette première objection que saint Thomas souligne. Il semble que Dieu est un corps. Le corps, en effet, a trois dimensions. Or, l'Écriture sainte attribue à Dieu les trois dimensions dans le livre de Job. Excelsior chez l'Ouest et quid facies profondior inferno et unde cognosces longior terra mensura eius et latior mare. Donc Dieu est un corps. On parle de Dieu comme étant plus grand que tout ce que je peux voir, plus grand que les cieux, plus grand que les montagnes, plus grand que la mer. Donc Dieu a un corps. On parle de Dieu comme ayant une figure. Faisons l'homme à notre image et à notre semblance et à notre similitude. Donc, nécessairement, il y a une figure, puisque la figure, c'est l'image. Donc on peut dire, puisqu'on est fait à l'image de Dieu, ben, si on est fait à l'image de Dieu, il faut bien que Dieu ait dit, et une figure, puisque je suis à l'image de quelqu'un. Quand on est fait à l'image de quelqu'un, on est fait à sa ressemblance. Donc Dieu a une image. De même, il dit que Dieu a un bras, que Dieu a une main, que Dieu... Alors, on voit toute l'image, tout le symbolisme de l'Écriture. Hein. Donc, tout le symbolisme de l'Écriture. Réponse de saint Thomas. Saint Jean, Dieu est esprit. Spiritus est Deus. Je suis en théologie. Je m'appuie sur la révélation. Il n'est pas dit Dieu est simple, Dieu est esprit. Alors, voici le raisonnement du théologien. On doit nier absolument que Dieu est rien de corporel. Et l'on peut donner trois preuves. Tout d'abord, un corps ne meut que si lui-même est mu, comme l'enseigne une constante expérience. Or, on a fait voir plus haut que Dieu est le premier moteur immobile. Il n'est donc pas encore. Alors, voyez les conclusions. Les conclusions du Per Modo Causalitatis. J'atteins Dieu en voyant que Dieu, c'est le premier moteur immobile. Dieu ne peut pas être dans le devenir. Et parce que Dieu, s'il est l'être premier, ne peut pas être dans le devenir, nécessairement, Dieu n'a pas de corps. Parce que le devenir implique une potentialité radicale qui vient du corps. Donc on oppose tout simplement un des attributs de Dieu comme premier moteur immobile au point de vue d'avoir un corps. En second lieu, l'être premier doit nécessairement être en acte. Vous voyez, au fond, on va regarder les attributs à obtenir de Dieu. Dieu est premier moteur immobile. Donc il est le premier moteur immobile. Ceci, c'est la conclusion de la physique, c'est la conclusion de la prima via. C'est Saint-Amand, la première voie de Saint-Amand. La première voie de Saint-Amand conclut à Dieu est au-delà du devenir. Si Dieu est au-delà du devenir, il est un moteur immobile. Tout dépend de lui, il est un moteur immobile. Donc, on voit très bien, à partir de là, si Dieu est le premier moteur immobile, il est impossible qu'il ait un corps. Pourquoi ? Parce que tout corps est mobile. C'est le propre du corps. Il est capable d'être nu. Deuxième raison, l'être premier. Dieu est l'être premier. L'être premier doit nécessairement être en acte. L'être premier est acte pur. Parce qu'il est premier. Parce qu'il est premier, l'acte pur. Parce que seul l'acte est premier dans l'ordre de l'être. Donc l'être premier est nécessairement acte pur. En second lieu, l'être premier doit nécessairement être en acte. Et d'aucune manière en puissance. Car bien qu'à considérer un seul et même être parmi ceux qui passent de la puissance à l'acte, la puissance soit d'une priorité de temps, antériorité à l'acte, la puissance soit d'une priorité de temps antérieure à l'acte, cependant, absolument parlant, c'est l'acte qui est antérieur à la puissance, vu que l'être en puissance n'est amené à l'acte que par l'être en acte. Or, on a montré plus haut que Dieu est l'être premier. Il est donc impossible qu'en Dieu, il n'y ait rien en puissance, et ce serait le cas si Dieu était corporel, car le continu comme tel est divisible. Donc la seconde raison montre que Dieu ne peut pas impliquer de corps parce qu'il est l'être premier, il est donc acte pur. S'il est acte pur, il répugne à toute potentialité. Il répugne à toute potentialité parce que la potentialité n'est jamais première du côté de l'être. Donc il répugne à toute potentialité. S'il répugne à toute potentialité, le corps implique quelque chose qui peut être divisible. Donc, il est en puissance. Donc l'acte pur ne peut pas impliquer le point de vue du corps. Alors la troisième raison, enfin Dieu est, comme on l'a dit, ce qu'il y a de plus noble parmi les êtres. Alors c'est la noblesse. Retenez bien ces trois raisons, hein, la noblesse. Moteur immobile, l'être premier, noblesse. La noblesse de Dieu. La noblesse, c'est la qualité. Il est, comme on l'a dit, ce qu'il y a de plus noble parmi les êtres. Il est impossible qu'un corps soit le plus noble des êtres, car un corps est vivant ou il ne l'est pas. Le vivant est manifestement plus noble que ce qui n'a pas la vie. Et d'autre part, le corps vivant ne vit pas précisément en tant que corps, car alors tout corps vivrait. Il vit parce que quelque chose d'autre, comme notre corps à nous, vit par l'âme. Or, ce par quoi vit le corps est plus noble que le corps. Un petit raisonnement très amusant, Saint Thomas, pour montrer comment la noblesse de Dieu répugne à la corporéité. Alors, je résume, c'est très simple. Le raisonnement de Saint Thomas est un peu compliqué. Mais si vous essayez de comprendre comment Saint Thomas prend trois raisons pour montrer pour montrer que Dieu ne peut pas avoir de corps. Et donc, quand l'Écriture semble nous parler du corps de Dieu, comprenons bien, c'est un langage métaphorique. Voilà le langage métaphorique. L'Esprit Saint nous parle en se servant de notre sensibilité. Nous pensons tout avec des formes corporelles. Alors nous pensons même Dieu, de temps en temps, on se figure Dieu, vous voyez bien, on se figure très simple, le Père, la parole du Père, le bras de Dieu, la main de Dieu, on projette. Alors que Dieu ne peut pas avoir de corps. Et quelles sont les trois raisons que prend saint Thomas? C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y en a des quantités pour dire que Dieu n'est pas. Trois raisons. Mater immobile. Être premier, la noblesse. Pourquoi ces trois? C'est parce qu'elles sont les conclusions des voies par lesquelles j'aboutis à l'existence de Dieu. Prima pars, prima via, tertia via, quarta via. Alors, il faudrait se demander pourquoi 1, 3, 4 par rapport aux 5 voies. Ceux qui n'ont pas encore vu les 5 voies de saint Thomas, c'est pas commun. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, présupposez sa communion. Ceux qui l'ont vu, ils peuvent comprendre. C'est très intéressant parce que ça montre comment la question sur l'existé de Dieu, vous voyez, va fonder la réflexion théologique. C'est ça qui m'intéresse. C'est montrer la continuité entre la question 2 et la question 3. Il y a un choix.